chronique terrienne, parce que nous voulons des coquelicots et des abeilles. Une fois par mois, sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.
Bonjour. Toujours en vertu de l'appel « Nous voulons des coquelicots » qui demande l'interdiction de tous les pesticides, je vous propose un nouvel épisode de la saga « Pesticides agroécologie ». Et comme nous parlions des sols dans l'émission précédente et de l'importance de leur santé, aujourd'hui je vais tout naturellement prolonger le propos en vous parlant d'agriculture biologique et de biodynamie. L'agriculture biologique a fait pour la première fois son entrée au ministère de l'Agriculture au cours d'une grand-messe organisée par le ministre de l'époque fin 80, qui a réuni tous les tenants de l'agriculture bio, associations et paysans de France et de Navarre. Aujourd'hui, l'agriculture bio en France explose. En 5 ans, les surfaces bio ou en conversion ont été multipliées par 5. Et parmi ces agriculteurs, un petit nombre pousse la logique plus loin et se lance dans l'agriculture biodynamique. Un peu d'histoire. Et d'abord, quelques notions sur les écosystèmes et l'intérêt de la biodiversité. Ce que la biologie nous a appris depuis au moins un siècle, les physiciens, les mathématiciens, les spécialistes des sciences sociales, les économistes, l'ont découvert plus récemment sous le terme général de théorie de l'information. Pour qu'un système puisse survivre, et une cellule est un système, un être vivant est un système, une société est un système, donc pour qu'un système puisse survivre, il faut que toutes les parties qui le composent puissent échanger des informations. Ainsi, si vous vous trouvez face à une vipère, vous allez avoir peur, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans votre circulation sanguine une décharge d'adrénaline et cette décharge va se traduire par une action. Vos muscles vont être priés de se mobiliser pour prendre la fuite ou saisir de quoi assommer l'animal. Mais si vous ne savez pas que ce serpent est venimeux, vos yeux voient, c'est de la communication, mais ne renvoient à aucune information sur ce qu'il est. Vous ne réagissez pas et risquez d'en mourir. Voilà schématiquement ce qu'est l'importance de l'information par rapport à la simple communication. On parle à propos des systèmes d'entropie, terme barbare qui dit en fait que tout se dégrade, que tout a une fin. Mais, justement, la vie, c'est ce qui résiste à l'entropie, à la dissipation de l'énergie. Et si elle résiste, elle le doit à l'information qui permet une autorégulation du système et donc sa survie. Pour en revenir plus précisément à l'écosystème, voilà ce qu'on peut en dire. Un écosystème est un lieu d'auto-organisation entre les multiples organismes vivants qui le composent, par échange d'informations, actions et rétroactions. Ce qui permet à ce système ouvert, c'est-à-dire soumis à des influences externes, de se maintenir à un état d'équilibre en s'adaptant aux perturbations. Et pour s'adapter, chaque individu et chaque espèce composant l'écosystème doit pouvoir recueillir des informations et savoir les traiter. La richesse, c'est la grande capacité à mettre en œuvre des réponses chimiques, visuelles, sonores, électriques, de défense ou d'alerte. Voilà pour ce préambule sur les écosystèmes et la biodiversité et leur intérêt. L'agriculture biologique a fait son apparition en 1920. Elle est organisée à l'échelle mondiale depuis 1972. Selon l'Union européenne, la production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et en plus une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard des produits obtenus grâce à des substances et des procédés naturels. Et c'est un règlement de la Communauté européenne numéro 834 de 2007.
Thank you.
l'apparition de l'agriculture biologique se fait en réaction aux méfaits qui se font jour dans l'agriculture industrielle, avec la prédominance des intérêts financiers et commerciaux dans la conception des exploitations agricoles, aux dépens de la fertilité du sol. À l'origine, c'est une philosophie de vie. La croyance en une nature bienveillante, le constat de la dégradation des liens sociaux et des libertés paysannes avec le développement des grands groupes agro-industriels. L'agriculture biologique est aujourd'hui, pour beaucoup d'agriculteurs, une activité économique, éloignée de ces considérations et représente un moyen de mieux rentabiliser leur production. Les principales méthodes de l'agriculture biologique pour améliorer la fertilité du sol et protéger les cultures comprennent la rotation des cultures, les engrais verts, l'utilisation de compost, la lutte biologique. Des plantes plus rustiques sont générées par sélection plutôt que par le génie génétique. On admet en général que l'agriculture biologique tire ses principes et sa philosophie des écrits de Steiner, savant et philosophe à l'origine de la biodynamie. La biodynamie considère la Terre comme un tout, comme un être vivant qui suit ses propres évolutions. Les pratiques spécifiques à la biodynamie s'articulent autour de trois principes fondamentaux. Concevoir la ferme ou le jardin comme une entité autonome et individualisée. Deuxièmement, utiliser des préparations biodynamiques, préparations à base de plantes médicinales, de bouse de vache et de quartz, qui agissent énergétiquement pour l'équilibre du domaine. Et troisièmement, travailler avec les rythmes cosmiques, c'est-à-dire tenir compte des influences du soleil, de la lune, des planètes et du zodiaque. Toutes ces pratiques ont un but commun. Créer du lien entre le sol, la plante, le monde animal, restaurer l'unité des écosystèmes et stimuler les échanges entre les différents niveaux, de la vie microscopique du sol jusqu'aux influences planétaires, en passant par les niveaux intermédiaires que sont la parcelle, la ferme avec ses paysages, le territoire avec ses échanges sociaux et économiques. Avec la certification biodynamique Déméter ou encore le cahier des charges pour la production animale et végétale, on s'aperçoit qu'on demande simplement aux agriculteurs de respecter les principes et les pratiques de l'agriculture biologique en y ajoutant l'emploi des préparations de Steiner, qui sont des émulsions à dose homéopathique de plantes ou de bouse de vache. Les pratiques énumérées dans le cahier des charges de la biodynamie font plus penser à des fermes en polyculture à l'ancienne qu'à des temples de l'occultisme, comme certains auteurs définissent cette pratique. La biodynamie accorde une importance primordiale à la santé du sol et à l'immunité des végétaux.
Dasraha
parler de biodynamie, je suis allée interviewer les agriculteurs de la ferme d'Alcas, qui sont en élevage ovin laitier. Mais avant de vous faire écouter cette interview, je ne résiste pas à vous citer l'opinion sur la biodynamie d'un philosophe pluri-expert, Michel Onfray. La biodynamie est une pensée magique, qui, comme toute pensée magique, dont la psychanalyse, produit des effets chez ceux qui y croient. Le vin imbuvable pour un amateur de vin devient le nectar le plus fameux pour un palais qui a renoncé à ses papilles au profit du catéchisme formulé en 1924 par l'ésotériste Rudolf Steiner dans un ouvrage intitulé « Agriculture ». Et plus loin, si ce que je crois, toute religion caractérise une vision du monde qui explique l'ici-bas par un au-delà, alors Steiner propose une religion. Si ce que je crois également, une religion est une secte qui a réussi, on peut dire que Steiner propose une vision du monde qui visait à la religion et, parce qu'elle n'a réussi que partiellement, cette vision constitue une secte, autrement dit, une religion miniature, une religion minoritaire. Et maintenant, écoutons les officiants de cette secte.
Je viens vous voir parce que je voulais avoir un interview comme ça sur une ferme qui marche en... Alors, biodynamie, pas forcément, mais c'était en agriculture biologique. Et alors, encore mieux si c'est en biodynamie. Et dans la région ?
Dans la région, oui, on est quelques-uns. On est déclaré Déméter avec la certification, on est 2,5. Il y a Eddy Berthaud, le verger des Elfes, qui est en conversion depuis un moment, et puis nous-mêmes.
Alors, c'est une ferme qui produit quoi ?
Alors, nous, on produit du lait de brebis. Du lait de brebis pour Roquefort. On prélève une partie de notre production de lait de brebis pour en faire des yaourts. Donc, vendus sous le label Déméter.
Vous produisez votre alimentation ? Comment ça se passe ?
Il y a en fait une superposition de couches. On est dans l'appellation Roquefort. Donc, déjà, il y a la couche Roquefort. Qui interdit les achats de plus de 200 kg d'aliments par tête de brebis. Ensuite, on est en bio. Tout ce que l'on peut acheter éventuellement doit être bio. Et après, on a le label en plus, donc la troisième couche, qui est tout ce qui est Déméter. Déméter nous oblige à être à 80% autonome.
Pour conduire l'ensemble de la ferme, comment dire, il n'y a pas de cloisonnement entre les différentes...
Non, c'est un tout. Et c'est là où on touche à l'essence même de... Mais du tout, quoi, quelque part. Et bon, Déméter est un label privé qui parle de biodynamie principalement, mais en fait, le raisonnement, c'est pas Déméter qui l'amène, c'est quelque chose qui est ancré depuis un moment dans ma tête déjà, et puis dans celle de mes associés aussi. Oui. On part de l'herbe que l'on sème jusqu'au lait que l'on finit par produire ou le yaourt que l'on vend. Oui. Et c'est vraiment toute une chaîne d'imbrication, de réflexion, d'intention qui est tout à la suite pour arriver à faire quelque chose qui soit un aliment sain et qui remplisse, qui soit plein.
Il y a combien de temps que cette ferme existe ?
Je crois que je dois être la cinquième génération. C'est un agglomérat à un moment donné. Mes arrière-grands-parents étaient sur deux communes, Saint-Jean-d'Alcas et Saint-Félix-de-Sorgues. Donc on a, depuis très longtemps, on était sur la ferme à Saint-Jean-d'Alcas et puis à Mascourbe. Mon grand-père a réuni ça, mon père l'a un peu plus développé.
Et depuis combien de temps c'est en biodynamie ?
Alors, le label biodynamie, on a dû le prendre il y a 2-3 ans, il y a un an de conversion. Il y a une obligation d'être en bio depuis au moins 2 ou 3 ans avant. Mais il y a le label et il y a le reste, si j'ose dire. Le label, c'est une norme avec un cahier des charges, avec les travers d'humains qui sont à gérer le label. Et après, il y a l'état d'esprit. L'état d'esprit, oui. Il est là depuis beaucoup plus longtemps que ça.
Ma question, c'est plus la biodynamie selon vous que selon un label. Hein.
Oui.
Ce qui vous a motivé, ce qui vous a... motivé pour vous lancer dans la biodynamie.
C'est à partir du moment où on prend en considération, j'allais dire, de l'organisme, parce que c'est en fait c'est ça. La ferme est un organisme vivant. Il a besoin de se nourrir et il a besoin de de produire quelque chose aussi. Donc c'est vraiment à partir du moment où on considère le tout comme un organisme vivant que l'on est obligé de travailler les interrelations entre chaque point qui font cet organisme. Est-ce qu'il y a des nerfs? Est-ce qu'il y a des flux sanguins? Est-ce qu'il y a des... Donc les nerfs électriques, les flux sanguins plutôt liquides quelque part. C'est tout ça. Est-ce qu'il y a de l'intention? Est-ce qu'il y a de la réflexion? Donc c'est vraiment prendre en considération tout cet ensemble de choses qui font un. Parce que ça fait un au final. En tout cas, dans ma manière de penser, je ne peux pas considérer que les brebis. Ou je ne peux pas considérer que la céréale. Ou que le foin. Ou que les yaourts. Non, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on va semer? Où est-ce qu'on va le semer? Quand est-ce qu'on va le semer? À quelle dose? Et jusque au yaourt, où est-ce qu'on va le vendre? Dans quel pot? Dans quel conditionnement? Et qu'est-ce que l'on va expliquer aux gens qui vont le manger? Parce que la finalité de cet organisme-là, c'est de produire quelque chose qui sert à nourrir des gens. Et c'est vraiment ça le point essentiel. C'est on nourrit la terre pour que cette terre-là nous donne le meilleur d'elle-même et pour que nous-mêmes... par nos actions, on puisse transmettre au consommateur final le meilleur de ce que l'on a réussi à agglomérer pour pouvoir nourrir. C'est ce cercle vertueux-là qu'il faut arriver, dans lequel il faut arriver.
Par exemple, sur la conduite du troupeau, vos agneaux, ils sont sevrés à quel âge ?
Alors, nos agneaux, ils n'ont pas forcément d'âge pour être sevrés. Ils ont, bon, encore une fois, dans l'AOP Roquefort, il y a un âge minimum. Dans la couche bio, il y a aussi un prérequis, mais qui est plus faible que la couche Roquefort. Et dans le label Déméter, c'est un peu flou quand même aussi, parce qu'on peut toujours vendre des produits, enfin des agneaux par exemple, ou des yaourts, on peut décider que les agneaux ne seront pas vendus en Déméter. Donc il y a toujours cette chose-là. Nous, on vend nos agneaux à partir du moment où ils sont en capacité physique de pouvoir être sevrés. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont un certain poids. En fait, on vérifie aussi des dents. Quand ils ont les quatre dents en bas, donc huit, quatre de chaque côté, en bas, ils sont physiologiquement capables de devenir des ruminants. Avant ça, ils ne le sont pas. Donc avant ça, ils restent sous la mer. Ils boivent, ils mangent le lait de leur mère, uniquement. Enfin, uniquement. Donc, on commence au fur et à mesure à introduire de la paille pour leur apprendre pour fabriquer le rumen, en fait. Commencer à développer cet organe-là. Et au fur et à mesure, on leur met un petit peu d'aliments pour qu'ils commencent à voir qu'il y a autre chose que du lait. Et ils observent leur mère manger le foin, ils vont faire pareil. Et à un moment donné, ils sont prêts. Et c'est à ce moment-là que soit on les vend, soit on les sève nous-mêmes.
Donc il n'y a pas de sevrage rapide à 3 semaines ou 4 semaines, où ça se pratique dans certains élevages.
Ça se pratique effectivement dans certains. Il y a même des agneaux qui sont vendus à 8 jours, ce qui est une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de pertes. Ou alors ce serait comme les chevreaux, soit on les tue à la naissance, soit on les met de suite à l'allaitement artificiel. Ça, c'est pas tout à fait notre philosophie.
Sur le plan de l'alimentation, comment est-ce que vous procédez? Vous avez vos semences? Oui, ces semences, c'est des semences fermières, c'est...
Je ne connais pas de semences certifiées biodynamiques encore, mais je n'ai pas forcément trop cherché. En fait, on est obligé d'être autonome à 80%. Et cette autonomie, nous, on la pousse aussi sur les céréales. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas acheté des céréales pour ressemer. On fait qu'avec nos céréales à nous, que l'on ressème chaque année. De même pour les luzernes, qui est la base de l'alimentation pour faire du foin. Nos luzernes sont moissonnées en permanence sur nos parcelles pour être ressemées. Les trèfles que l'on met aussi. Et après, il y a d'autres espèces qui sont semées, qui là ne sont pas produites sur la ferme en tant que semences. Parce qu'on n'est pas une ferme qui a pour but de produire la semence, on est une ferme qui a pour but de produire du lait. On n'est pas là pour être en autarcie, on est là pour être en autonomie à plusieurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des gens qui savent très bien faire des semences, donc on s'adresse à ces gens-là qui, pour acheter des semences et pour les faire vivre aussi.
Comment ça se passe sur le plan administratif, on va dire?
D'un point de vue administratif, il y a encore une fois plusieurs couches. La couche principale, c'est ce qui s'appelle la politique agricole commune, la PAC. Beaucoup de choses sont basées là-dessus. Un, l'administration française veut savoir ce qu'on met dans nos champs et ce qu'on fait dans nos bergeries. Donc là, on doit tout déclarer. Après, il y a la partie bio. Et dans la partie bio, c'est très basé sur tout ce que l'on a déclaré à la PAC. Et l'inspecteur, le contrôleur, quand il vient pour contrôler Déméter, il va regarder toutes les déclarations PAC et la bio. Et ensuite, il va vérifier dans les intrants que l'on utilise qu'il n'y ait pas, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont autorisées en bio, mais qui ne sont pas en Déméter. Grosso modo, si on veut vendre quelque chose de Déméter, il faut qu'il soit dans une case qui permette de l'appellation. Ou sinon, on peut demander des dérogations quand ce n'est pas des choses très, très graves.
Alors, quelles sont les satisfactions que vous retirez de votre pratique ?
C'est toutes les questions que ça amène à se poser, les réponses que l'on peut amener et le chemin qui reste, que l'on, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il reste à faire. Plus on en fait, plus on se rend compte qu'on n'a rien fait comme chemin et qu'il en reste beaucoup. Ça, c'est une vraie joie de dire... Il reste encore tout ça à découvrir. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Donc, vous êtes satisfait d'être en biodynamique.
Je suis satisfait à partir du moment où je sais que, au final, nous faisons un produit qui est sain et qui est... On parle de rondeur. L'idée de Steiner, c'est vraiment amener un aliment, au final, consommable, qui amène plus que la simple sécurité alimentaire. Qui nourrit, mais nourrit dans plusieurs plans, pas que l'estomac, qui nourrit aussi l'état d'esprit. Et ça, c'est aussi important de nourrir l'esprit, déjà d'échanger, parce que la biodynamie est faite au départ, on ne fait rien tout seul, on fait ça à plusieurs. Et c'est aussi cet échange-là qui nourrit.
Je suppose, mais peut-être que je me trompe, que la pratique, c'est par exemple de faire du semi-direct. Est-ce que vous faites du semi-direct ?
C'est une technique que l'on utilise. Mais le semi-direct va souvent avec l'utilisation de glyphosate. Parce que pour réduire la compétition par rapport aux graines que l'on veut implanter, le moyen le moins cher, c'est le glyphosate. Donc le semi-direct, on sème une graine dans un sol où il y a déjà d'autres choses qui poussent. Donc si on veut vraiment que nos graines elles poussent, celles que l'on veut et pas celles qui sont déjà là, il y a cette notion de devoir faire baisser l'intensité de vie des autres espèces présentes pour favoriser celles que l'on veut. Donc encore une fois, le moyen le plus simple, c'est glyphosate. Donc le semi-direct, c'est quelque chose que je fais, mais dans certaines catégories, dans certains cas. Jamais tout le temps, jamais en systématique, c'est une réflexion globale qui va me dire qu'est-ce que je veux. Quel est l'équilibre que je veux modifier ? Quel est l'équilibre que je veux changer ? Mais c'est bien un équilibre. C'est pas je détruis tout pour pouvoir mettre ce que je veux. En semi-direct, sans l'aide chimique, ça ne marche pas. Et si il y a des gens qui ont essayé avec du vinaigre blanc ou des choses comme ça, mais c'est toujours le même effet. C'est toujours réduire ou tuer ce qu'il y a en place pour pouvoir implanter ce que je veux. Et pas de dire, là, si j'amenais ça, ce serait encore mieux pour la globalité de ce qu'il y a. Donc moi, le semi-direct, je l'utilise. En fait, grosso modo, les rotations sur notre système d'élevage sont assez simples. Il y a un temps avec des céréales et un temps avec de l'herbe. Soit pour la pâture, soit pour de la fauche. Donc la partie entre la céréale et l'herbe, c'est assez facile à régler. Là, il y a le semi-direct qui a toutes ces choses à faire valoir. En revanche, entre la pâture ou la luzerne et la céréale, là, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce qu'une pâture, c'est une harmonie dans un ensemble d'espèces, c'est une harmonie avec un sol. Généralement, c'est implanté pour plusieurs années. Il y a des plantes qui peuvent s'affaiblir au bout d'un certain temps. Mais c'est quand même, à partir du moment où on installe en plus des fleurs complexes, on ne peut pas le réduire en disant, ça y est, je vais passer mon semi-direct et ça va marcher, je vais pouvoir moissonner. Non, ça ne marche pas, ce serait trop beau si ça marchait comme ça. Là, il y a besoin d'une destruction. Nous, on le fait mécaniquement, tout en respectant les horizons du sol. Le but est juste de sortir les racines, en fait, mais pas plus profond que les racines. Et les racines, l'exploitation du sol sur des racines, c'est autour de 4 cm. Donc si on est beaucoup plus profond, si on dépasse 8 cm, on est plus pertinent. Parce que ça coûte cher en termes d'énergie, ça coûte cher en termes d'usure, et puis en tracteur, voilà. Donc le but, c'est de prendre juste les racines et d'arracher la plante pour pouvoir après implanter nos céréales. On dit que quelqu'un est bon quand il a plusieurs cordes à son arc, mais c'est exactement ça. C'est comme ça qu'il faut voir le semi-direct par rapport au reste. Tous les outils sont bons, il y a juste une question de comment on les utilise. Et c'est vraiment ça la subtilité, c'est savoir comment on utilise les choses. Le labour peut être très intéressant ou il peut être dévastateur. Et c'est la même charrue. Et c'est le même tracteur et le même pilote. Qu'une histoire de réglage, c'est qu'une histoire de réflexion, une histoire de dire qu'est-ce qui se passe quand je fais ça. Et qu'est-ce que je veux? Si je veux tout détruire, ben oui, on va labourer à 40 cm, on va sortir plein de cailloux ici, parce qu'on a beaucoup de cailloux. On va aligner les cailloux, on va casser les cailloux, on va faire un billard, ouais, sauf qu'on a tout perturbé. Parce qu'on va mettre en surface des organismes, donc en l'occurrence beaucoup de bactéries, qui sont habituées à vivre sans oxygène. On va les oxyder en les mettant à l'oxygène. Et celles qui étaient en haut, que l'on bascule en bas, qui avaient l'habitude de vivre avec de l'oxygène, on les met sans oxygène. Et bien là, on a tout perturbé. Et c'est pour ça qu'on utilise des engrais, qu'ils soient organiques, qu'ils soient bio ou qu'ils soient non bio. Parce qu'en bio, on peut faire du bio avec plein d'engrais aussi. C'est vraiment, la vie est complexe, encore une fois. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on arrive à avoir beaucoup de connaissances. Et le travail de l'agriculteur, c'est pas dire c'était mieux avant. Avant, on faisait des choses de manière empirique, on savait pas pourquoi. Maintenant, on peut savoir pourquoi. On peut trier ce qui était bien et pas bien. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a accumulé beaucoup de connaissances. Il faut juste savoir où les trouver, il faut juste avoir certaines libertés de pensée pour savoir trouver et pour savoir écouter les gens qui ont des choses intéressantes à dire. Parce que des gens qui nous parlent que de nourrir la planète et tout ça, à grands coups d'achat de l'aliment qui traverse tous les océans pour venir engraisser nos animaux en France, il y a un souci.
Il y avait des accords en Europe. On ne pouvait pas semer du soja, oui. Parce qu'il y avait des accords avec les États-Unis, autant que je me souvienne.
C'est ça.
Et on était obligé d'importer le soja.
C'est ça. Alors, c'est toujours en partie le cas. C'était les accords du GATT. Je me suis posé la question. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, notamment aux États-Unis, et je leur ai dit, j'étais dans la recherche et on travaillait sur du soja. Et je leur disais, mais pourquoi on ne fait pas ça en France? Ça ne pousse pas en Europe. Un agronome qui me disait que ça ne pousse pas en Europe. C'est étonnant ces certitudes que l'on a infondées. C'est vraiment à force de creuser qu'on se rend compte que, ah pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais c'est ce traité.
C'est le traité qui... Ouais.
Voilà, qui disait, vous produisez l'énergie, nous on produit la protéine. Et en échange, vous aurez ça. Mmh. Voilà. Donc c'est que du politique, c'est que du financier. Et bien là, on n'est pas très pertinent. Après, on peut faire autre chose que du soja. Hein. Le politique prend trop de place par rapport au bon sens. Et le politique est généralement dicté par celui qui va lui payer campagne électorale.
Mot de la fin. Merci.
L'émission se termine ici. J'espère que ces propos vous ont apporté quelques sujets de réflexion. Quant à l'action pour préserver notre capital terre, eh bien, entre autres, signez et faites signer l'appel « Nous voulons des coquelicots ». Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site « Nous voulons des coquelicots » en un seul mot .org ou en venant participer au rassemblement qui a lieu le premier vendredi du mois devant la mairie de Sainte-Afrique à 18h30. Le prochain rassemblement est pour le 5 avril. Quelques surprises vous y attendent. La prochaine émission sera consacrée à un sujet moins enthousiasmant, les limites maximales de résidus, ou LMR, dont la fixation relève d'une grande fantaisie d'interprétation, tout en conditionnant ce que nous retrouvons dans nos assiettes. Du côté musical, je vous ai amené en Mongolie. Cette émission sera rediffusée jeudi à 12h15 et dimanche à 19h. Sinon, vous pouvez la réécouter en libre service sur radiosatafrique.com, les mensuels culture. C'était Clément à la technique. Merci Clément. Et je vous dis au 5 avril, devant la mairie de Sainte-Afrique à 18h30, à bientôt. Ardos, Zatogas, Chomega, Gilkuhiaho.